Kiosque Magazine.
Nous sommes le 26 juin. Bienvenue à Kiosque Magazine sous le thème des loisirs et de la culture. Je m'appelle Charles Roy et à mes côtés, Jean-Philippe Vachon.
Bonjour
Jean-Philippe, ça va bien?
Ça va très bien. Un beau soleil aujourd'hui.
Vraiment, ça fait vraiment du bien.
Belle semaine aussi quand même qu'on a connue alors.
Tout à fait, tout à fait. À date, un bon bilan de l'été. Là.
Oui, oui, tout à fait.
Mais si on veut améliorer ce bilan, ben on pourrait peut-être sortir, faire quelque chose. Est-ce
exactement.
Que tu as des choses à nous proposer d'ores et déjà?
On va parler de musique aujourd'hui, mais on va aussi parler de théâtre. C'est avec une pièce, en fait, une satire à la hauteur de ses ambitions. On en reparlera tout à l'heure. Je vous parlerai aussi de d'art visuel, une exposition assez particulière. On peut dire une guerre de post-it. Mais ça, okay. Je vous en parle tout à l'heure. Et je vous parle aussi de cinéma, un film qui sera sur nos écrans l'année prochaine, donc il va falloir patienter un petit peu, mais je pense que c'est un film qui va attirer beaucoup de gens, beaucoup de curieux aussi.
Très bientôt, il y a le Festival d'été de Québec qui commence, je vais vous en parler. Aussi, le Festivois à Trois-Rivières, je vais vous parler aussi du théâtre amateur. On parle très peu souvent de théâtre amateur à l'émission. Ben, à Sherbrooke, il y a 3 pièces qui se déroulent cet été. Je vous parle du ZooFest qui va commencer la semaine prochaine et à Québec, les passages insolites. Et tout d'abord, oui, allons à Québec où le Festival d'été de Québec se prépare. Josiane Desloges dans le Soleil a fait un très beau papier qui résume très bien les activités. Le 11 juin dernier, Festival d'été, mer et monde en famille. Pendant le Festival d'été, alors que l'avenue Cartier sera animée au cours des 10 soirs et que les artistes de la rue Saint-Jean seront plus visibles, la place de la famille baignera dans une thématique marine. Géants, bêtes humaines, personnages à tête d'ampoule, dragons et autres créatures fantastiques feront bouger et rêver les petits et grands. Les arts de la rue ont un nouveau programmateur, Marc Gourdeau, entre autres directeur général du théâtre Premier Acte. 3 compagnies de Québec se produiront en alternance à 18h30 sur l'avenue Cartier. Il y aura premièrement le spectacle Rock'n'Rolla, qui transportera les spectateurs dans les années 50 et 60 dans une prestation mêlant musique, danse et vélo géant. Ensuite, il y aura Prends ton pied, qui conviera les passants à un banquet de mariage participatif qui débordera sur les balcons et les terrasses.
C'est où, ça?
Ben oui. Alors que Détour de chant, un savant et très beau bricolage autour des textes de Régent Ducharme, dit-on, fera résonner en musique la parole des marginaux. Dans la rue Saint-Jean, la musique du monde, l'insolite et le cirque seront à l'honneur dans des créations catalanes, françaises, québécoises et néerlandaises. On y verra notamment Burletta à 4 temps du théâtre de l'Aubergine, Ciel de rue inspiré des peintres automatistes et Corrida Divas de la troupe de Québec Les Bêtes humaines. Et si on regarde la programmation de la Place de la Famille, il y aura entre autres Arthur l'Aventurier, Les Petites Dounes et la comédie musicale Le Magicien d'Oz les 17 et 18 juillet à midi. L'espace danse permettra aux enfants de bouger au rythme du djembé ou en dansant le gumboots au milieu de la journée. Un cinébus, des ateliers de cirque, de mural et de bricolage, ainsi que le manège et la tour de la samba seront au menu. Il y aura aussi, on me dit, un bébé dragon de 24 pieds, heureusement que c'est un bébé, qui est conçu par le jardin mythologique et qui sera également au rendez-vous. Toutes ces activités sont gratuites et oui, les détails et horaires seront disponibles en ligne sur infofestival.com.
La musique de Salomé Leclerc, justement, on va en parler un petit peu. Salomé Leclerc, c'est une pièce de son premier album, Ne reviens pas. Et bien, c'est une belle opportunité qu'elle a eue. Elle a remporté le prix Félix Leclerc de la chanson 2015 la semaine passée dans le cadre des Francofolies. Alors, l'auteur-compositrice-interprète a remporté donc ce prix qui lui ouvre la scène du festival du même nom à La Rochelle pour l'édition 2016. Alors, comment ça fonctionne, en fait, le prix Félix Leclerc? Eh bien, ça a été lancé en 1996 pour favoriser les passerelles entre la France et le Québec, comme le faisait évidemment le chanteur éponyme duquel le prix est nommé. C'est ce qu'a expliqué d'ailleurs Laurent Saunier dans un article du journal Le Devoir qui a paru la semaine passée, le 16 juin. Alors, Félix Leclerc, qui n'était pas mon grand-père, c'est ce qu'elle a déclaré avec amusement. Bon, le même nom de famille, évidemment, c'est pour ça la petite blague. Bon, elle a quand même 29 ans seulement et la célèbre auteure-compositrice-interprète, évidemment, va surfer sur ce succès-là. Cette année, il y a 10 groupes ou interprètes qui étaient en nomination et c'était une très grande victoire pour elle. C'est réjoui de cette victoire-là. Associant à ce succès, ses musiciens avec qui elle monte un réel sens de la scène grâce à un dynamisme et une rythmique soutenue. Alors, le prix qui est assorti d'une bourse de 2 500 $ et une autre de 10 000 $, dont 5 000 sont consacrés au soutien à la tournée, décerné à la fois à Montréal et un mois plus tard à La Rochelle durant les Francofolies. Le prix récompense des deux côtés de l'Atlantique des jeunes auteurs, compositeurs, interprètes dans le but d'encourager la chanson en français. Les deux lauréats sont ensuite invités à se produire à l'édition suivante des Francofolies de l'autre côté de l'océan. Alors, après avoir enchaîné le printemps de Bourges et les Francofolies de La Rochelle en 2013, Salomé Leclerc sera le mois prochain à l'édition des Franco de Spa en Belgique et à Nyon en Suisse également par la suite. Je vous rappelle que son deuxième album, 27 fois l'horreur, sorti l'automne dernier, affiche un style un peu plus rock que son premier opus qu'on a écouté un extrait il y a quelques secondes. Bon, il est réalisé également par Émilie Loiseau avec des sons un peu plus acoustiques. Le jury est composé de journalistes, d'animateurs de la scène musicale qui a préféré cette année Salomé Leclerc à Philippe Braque, les Sœurs Boulay, Félix Diot, Alex Nevsky et Émile Proutloutier notamment. Et faut dire aussi que, bon, elle a passé par l'École nationale de la chanson de Grambe comme plusieurs autres talents francophones canadiens, et à la batterie à l'âge de 10 ans seulement, elle s'est ensuite mise à la guitare, dont elle utilise plusieurs modèles durant ses concerts. Et du côté de la France, en fait, l'été dernier, c'était le groupe Feu Chatron qui avait couronné donc l'édition 2014, et ils se sont produits la semaine passée à Montréal. Beau spectacle, semble-t-il, une belle critique également. Et le lauréat québécois en 2014, c'est Philémon Simon, que tu aimes beaucoup, si je ne me trompe pas. Il sera au Francofolie de La Rochelle, justement, le 12 juillet prochain, avant de passer par l'île d'Oléron et de Saint-Malo également. Donc, c'est à suivre pour Salomé Leclerc, qui a quand même une très belle vitrine avec ce prix-là.
Le festival à Trois-Rivières battra son plein, en fait, dès ce soir jusqu'au 5 juillet. François Hould, dans Le Nouvelliste, nous en parle. Le festival en 7 rendez-vous. Ça a été publié le 19 juin dernier. Le directeur général Thomas Grégoire a expliqué que cette année, les responsables de la programmation ont fait preuve d'audace et pris des risques malgré le climat d'incertitude qui planait sur les événements publics. Avec la baisse annoncée des subventions en provenance notamment des sociétés d'État. Or, semble-t-il que ces risques ont payé. Non seulement la programmation apparaît comme particulièrement étoffée avec la multiplication des spectacles d'artistes d'envergure, mais cette programmation semble avoir convaincu le public qui aurait acheté un nombre record de passeports en prévente. Monsieur Grégoire dit que ça nous a permis de bâtir une programmation particulièrement dense avec des soirées thématiques dans lesquelles on a parfois plusieurs artistes qui auraient très bien pu se trouver sur la grande scène tellement leur popularité est grande, mais qu'on a réservé pour d'autres scènes qu'on a réservé pour d'autres scènes pour créer des atmosphères différentes et plus intéressantes. En clôture de ce festival, il y aura Patrick Watson. La dernière soirée, c'est Patrick Watson sur la grande scène qui se produira avec Franklin Electric. Après 8 jours de festival, on a voulu une soirée plutôt sereine avec une note de poésie de façon à nous séparer de nos festivaliers en belle émotion. Et on part ce festival-là en trombe puisque ce sera les Cowboys Fringants qui vont inaugurer le festival. Les Cowboys Fringants, c'est un classique, comme le dit le directeur général. Ils sont incroyables sur scène. En plus, avec les années, ils ont développé un attrait intergénérationnel. On dit, et monsieur Grégoire est particulièrement fier de la date du 3 juillet. Mettez ça à vos calendriers, puisque ce sera la soirée franco, dit-on, de l'édition 2015. Pas simplement parce que la chanson française dominera, mais parce qu'on présentera différents visages de la chanson française. Celle de Louisiane avec Zachary Richard, celle du Québec urbain avec Bernard Adabus et celle de la Gaspésie avec Patrice Michaud, jusqu'à celle de l'Abitibi avec Danny Placard en toute fin de soirée. Et ce festival, ça s'appelle le Festivois, c'est jusqu'au 5 juillet.
On remonte un petit peu en arrière maintenant pour parler de musique avec un album mythique célébré ses 20 ans cette année. Je ne sais pas si vous connaissez Alanis Morissette, si je le prononçais bien, peut-être que ça aiderait un petit peu. Le 13 juin 1995, elle débarquait en trombe sur la scène musicale canadienne et internationale également avec l'apparition de l'album Jagged Little Pill. Alors, c'est pas impossible que je le prononce pas bien. Ça veut dire une petite pilule déchiquetée.
Ah bon?
On va s'en tenir à la version anglophone. Alors, à ce moment-là, le 13 juin 1995, une nouvelle rockeuse était née. C'est un article du Journal de Montréal du 20 juin dernier. C'est écrit par Bruno Lapointe. Qu'il soit question de rock canadien ou de rock au féminin, Jagged Little Pill est encore aujourd'hui un incontournable, vendu à plus de 33 millions d'exemplaires à travers le monde. Il s'agit de l'album qui, à lui seul, élevé Alanis Morissette au rang de déesse du rock. Plusieurs croient d'ailleurs à tort qu'il s'agit du premier album de la rockeuse canadienne, mais non, Alanis Morissette avait déjà deux albums à son actif. À l'époque, Alanis et Now is the Time, sur lequel on pouvait découvrir des albums, des chansons plutôt très pop et très dance, qui sont passés pratiquement inaperçus. Et c'est après avoir été repêché par l'étiquette Mavericks, cofondée par Madonna, qu'Alanis Morissette est revenue à la charge avec un nouveau look et un nouveau son. Exit les cheveux bouffants et les bijoux extravagants, la jeune chanteuse, alors âgée de 21 ans, était désormais méconnaissable, arborant un look très grunge, très rock, donc très dans son époque. Jagged Little Pill est venue cimenter cette nouvelle incarnation avec ses textes parfois crus, parfois poignants, mais toujours percutants, tous signés de la plume de Madame Morissette. C'est également elle qui a composé la musique de l'album avec son producteur Glenn Ballard et porté par son premier simple You Hardn't Know. Ce nouvel opus a ouvert les portes du monde entier à la rockeuse canadienne. En tous ces 6 extraits radio qui ont été lancés de cet album-là, le plus connu étant la pièce Ironic, souvent considérée comme le titre le plus populaire de toute la carrière d'Alanis Morissette. Dans les mois qui ont suivi la sortie de l'album, eh bien, ça a permis à la rockeuse canadienne de remporter de nombreuses récompenses, dont des Juno Awards, des Grammy Awards, un total de 9 nominations aux Grammy Awards quand même, elle en a remporté 5. Et quelques années plus tard, l'album est officiellement entré dans l'histoire. En 2003, le magazine Rolling Stones l'incluait dans son palmarès des 500 meilleurs albums de tous les temps. En 2012, le même magazine citait Jagged Little Pill dans la liste des 50 meilleurs albums de rock féminin de tous les temps, encore une fois. Et depuis quelques années déjà, eh bien, elle prépare une nouvelle vie à cet album-là, sous la forme cette fois-ci d'une comédie musicale. Alors, c'est pas nouveau, c'est le genre de projet qui commence à arriver un petit peu à plein d'artistes. On a qu'à penser en fait à Green Day avec la comédie musicale tirée de leur album American Idiot. Pour l'instant, eh bien, il n'y a aucune date officielle qui a été annoncée pour ce projet-là, mais c'est assez intéressant. Je pense que ceux qui ont aimé l'album Jagged Little Pill il y a 20 ans vont peut-être aller voir cette future comédie musicale-là.
I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful. Be there in what it all comes down to. That everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. Well, I feel drunk but I'm sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired but I'm care, but I'm
I'm here, but I'm really gone. I'm wrong, I'm sorry. Chicken shit. I'm sick, but I'm pretty.
C'était donc « End in my pocket » de la... ça m'arrive tellement souvent. D'Alanis Morissette. À chaque fois, je veux dire « Alanis », ça sort comme n'importe quoi. Voilà. Charles, tu nous parles maintenant, si je ne me trompe pas, de théâtre. Voilà.
Exactement, oui. Mais ce ne sont pas une, ni deux, ni mais bien trois pièces qui seront présentées cet été au théâtre... au théâtre à Marston. C'est une petite ville pas loin de Sherbrooke. Et trois productions de théâtre, donc amateurs, qui se succéderont de la fin juin à la fin août, au grand plaisir du copropriétaire et porte-parole du théâtre, Guy Gagnon, qui dira « Avec les troupes d'amateurs, nous avons parfois des surprises. Elles ne plaisent pas à tous les publics, mais dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, nous en sommes bien tirés. Et cette année, les comédiens que nous avons... Ce sont des amateurs qui ressemblent beaucoup à des professionnels. Alors, ce sont les promesses de Guy Gagnon, reportées par Ronald Martel dans La Tribune. Trois pièces pour raviver les animateurs. C'est l'article publié le 25 juin. Les représentations ont lieu donc les vendredis et samedis soirs à 20h. La première pièce, ce sera Bonnie et Claude de l'auteur Yves Amiotte, qui sera présentée dès ce soir jusqu'au 18 juillet dans une mise en scène de Guy Gagnon. Les comédiens jouent l'histoire d'un couple d'amoureux sans histoire qui décident de passer aux actes et de voler une banque pour réaliser le rêve de leur vie. La deuxième pièce de la saison, ça s'appellera « Pas de pitié pour le docteur » qui réunira sur scène 9 comédiens de la troupe La Grande Tablée, toujours les vendredis et samedis du 24 juillet au 8 août. La pièce raconte l'accueil d'un nouveau médecin et de sa secrétaire par un village qui leur déroule le tapis rouge, mais qui découvre que la réputation du médecin n'est pas blanche comme neige. Et enfin, du 14 au 29 août, le public pourra découvrir la pièce « Relax, Max, relax », un texte actuel de l'auteur Charles Bourgeois, Yvon Brochu, qui raconte l'histoire de Max, un homme d'affaires prospère qui n'a pas le temps de relaxer. En repos forcé, à contre-cœur, il aura beaucoup de difficultés à respecter les consignes de son médecin. Entouré de sa femme, de sa fille et de son partenaire d'affaires, il devra surmonter le défi impossible à réapprendre à déléguer. Pour plus d'informations sur ces pièces, je vous invite à visiter le site web théâtredelapremièrescène.com. Je vous le répète, c'est à Marston. Et le théâtre amateur, ça regroupe 300 regroupements ou troupes au Québec. Eh bien, c'est ça, je vous invite à aller voir du théâtre amateur. On pense pas souvent y aller, mais des fois, ça fait changement. Mm-hmm. Et du côté du professionnel, tu as quelque chose à nous proposer, Jean-Philippe?
Exactement, c'est du côté de Blainville. C'est la pièce « En cas de pluie, aucun remboursement ». C'est mise en scène et c'est écrit par Simon Boudreau. C'est au Petit Théâtre du Nord à Blainville et c'est jusqu'au 21 août. Et on en parle dans le journal Le Devoir ce matin, dans un article du 22 juin, en fait. C'est écrit par Marie Labrec, une satire à la hauteur de ses ambitions. Alors, tout n'est pas qu'un jeu au parc d'attractions royaume du super fun, une grave question envenime l'ambiance de travail depuis que le patron a annoncé sa retraite prochaine. Qui deviendra calife à la place du calife? Comiquement épique, la pièce de Simon Boudreau évoque de grandes références, dont Shakespeare au premier chef, et cette transposition de sérieuses luttes de pouvoir, cette adaptation inventive des codes royaux à la Game of Thrones, dans un environnement récréatif aux couleurs fluo, fonctionne, semble-t-il, très très bien. Créé au Petit Théâtre du Nord, en cas de pluie, aucun remboursement, vaut amplement le déplacement à Blainville. L'auteur de Tel quel est à son summum dans la description de ses relations hiérarchiques. On assiste ici aux rivalités et aux alliances stratégiques qui se forment entre employés afin de supplanter la fille du patron, héritière désignée, interprétée par Catherine Paquin-Béchard. Et c'est aussi la nouvelle recrue du parc, le bossu qui manœuvre dans l'ombre avec plus de ruse, n'hésitant pas à recourir aux moyens les plus déloyaux, quitte même à jouer sur la pitié afin de satisfaire sa soif de pouvoir. L'intrigue fonctionne plutôt bien et mieux en fait qu'en je recommence ça. L'intrigue fonctionne d'autant mieux en fait qu'en narrateur qui nous rend complice de ces tractations fourbes. Lucien Bergeron offre un parfait mélange d'apparente candeur et de rouerie, un bossu machiavélique qui renvoie bien sûr au Richard III de Shakespeare, mais aussi à son manipulateur Iago. Tous les interprètes exploitent à fond leurs personnages qui sont très bien typés. Rénald Robinson qui est le truculent en chef, Sébastien Gauthier qui est impayable avec son look de surfeur bellâtre, les énergies que Louise Cardinal et Mélanie Saint-Laurent également sont de la partie. Alors encore une fois, le metteur en scène déploie son inventivité scénique dans une scénographie flexible qui parvient à évoquer plusieurs lieux en jouant avec un mobilier de bureau. Le spectacle nous transporte en montagne russe ou clou de la soirée dans une piscine agitée. Une illusion réussie grâce à quelques accessoires et à un jeu physique très habile. Alors la pièce est très drôle, semble-t-il. Selon Marie Labrec, encore une fois, la pièce peut être savourée au premier degré. Et je vous rappelle que c'est du côté de Blainville jusqu'au 21 août au Petit Théâtre du Nord.
On va bientôt en pause, mais avant quelques brèves, une mauvaise nouvelle. Sillon ferme ses portes. C'est un des plus grands disquaires indépendants du Québec qui a annoncé il y a quelques mois, c'est ça, que d'ici quelques mois, victime du ralentissement des ventes de CD, ils se voient dans l'obligation de fermer leurs portes. Les deux propriétaires du magasin situé sur la rue Cartier à Québec en ont fait l'annonce dans un communiqué. Le magasin a reçu 7 prix Félix du meilleur disquaire indépendant au cours des 14 dernières années. Sa fermeture survient au moment où le plus grand disquaire du Québec, la chaîne Archambault, vient d'être acheté par Renaud Bré, groupe qui a aboli la fonction de disquaire dans ses magasins en janvier 2014.
Si vous allez du côté du métro Mont-Royal cet été, vous allez peut-être voir une grande pleure de bananes. Alors, je vous explique un petit peu plus. Pendant la période estivale, en fait, c'est une installation urbaine qui est assez inusitée et ludique, qui va donc investir la place Gérald Godin à la station métro Mont-Royal. Après l'installation Expose et les chaises Adirondack monumentales qui se sont appropriées des milliers de passants et de touristes ces derniers étés, voici maintenant Banana. Donc, B-A-N-C pour un banc, Nana. C'est à la forme d'une espèce de pleure de banane abandonnée par un passant et on peut s'asseoir dessus. C'est assez inusité, mais c'est assez original également. Alors, peut-être pour la petite pause, aller prendre siège sur cette banane-là et on se retrouve dans quelques minutes avec d'autres articles sur la culture et les loisirs.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, vous êtes de retour sur les ondes de Kiosque Magazine avec Charles et Jean-Philippe ce matin pour vous parler de loisirs et de culture. Je vous parle de cinéma maintenant. Alors, pour ceux qui voudraient peut-être aller voir un film original, ben, ce ne sera pas avant l'année prochaine, par contre. Mais je vous en
non,
parle d'ici maintenant.
Là, il n'y a aucun film original qui va sortir.
Exactement. Tu as tout compris.
Restez chez vous.
Alors non, c'est une blague quand même. Mais le cinéaste Pods nous prépare un film tout un avec ce tournage qui vient de terminer en fait pour le prochain film qu'il a réalisé qui s'appelle King Dave, qu'il a conçu comme un long plan séquence filmé directement dans les rues de Montréal au milieu de la nuit. Et c'est Maxime Demers du Journal de Montréal qui nous en parle dans un article du 20 juin dernier. Alors il nous raconte cette expérience de tournage qui est pas comme les autres. Intense, puissant, émouvant, casse-gueule, c'est des mots en fait qui ont été utilisés le plus souvent quand on parlait du tournage de King Dave avec le réalisateur Pods, l'acteur et auteur Alexandre Goyette et la productrice Nicole Robert. La réalisation de ce film, adapté de la pièce écrite et interprétée par Alexandre Goyette, a effectivement représenté un immense défi technique pour Pods et son équipe, en fait, qui ont filmé le tout en un long plan séquence de 94 minutes tourné sur 5 nuits. Tout ce qui pouvait être compliqué l'a été. C'est comme ça que Pods en parle. On avait un parcours de 9 km dans lequel on suivait le personnage principal dans les rues de la ville, dans un party, dans un autobus et même dans le métro de Montréal. On avait une quarantaine de locations et plus de 300 personnes, que ce soit des techniciens, des figurants qui travaillaient en même temps sur le plateau. Alors, c'est sûr que coordonner tout ça était très, très difficile, un grand défi, mais au bout du compte, le plus important était que ça n'ait pas l'air d'un plan séquence. Autrement dit, il faut que le spectateur oublie cela et se sente immergé dans l'histoire. Et d'après les réactions des gens qui ont vu les premières images, je pense qu'on a réussi. Alors, Pods en parle comme ça. Monté en 2005 au théâtre Prospero, la pièce King Dave raconte la descente aux enfers de Dave, un jeune homme frondeur et insouciant qui, après avoir volé une radio de voiture, s'enfonce dans une spirale de violence. La pièce prenait la forme d'un monologue joué par Alexandre Goyette à l'époque. Et donc, Pods et Alexandre Goyette ont cherché pendant longtemps la bonne façon d'adapter la pièce au cinéma et un soir, autour d'un verre de bière, l'idée du plan séquence a surgi. Le plan séquence nous permettait de conserver le monologue de la pièce en vivant à l'écran tout ce que raconte le personnage de Dave au moment où il le raconte. Le film qui est un feu roulant, ça n'arrête pas. Le personnage qui vit quelque chose d'oppressant et stressant et aussi d'épuisant. Et je crois que la forme d'un plan séquence reproduit très bien cet état d'âme à l'écran. Il y a très peu de films qui ont été conçus de cette façon-là. Le cinéaste mexicain, Alejandro González Iñárritu a récemment donné cette illusion avec son film Birdman. Avant lui, le russe, Alexandre Soukourov avait réalisé un tour de force en tournant son film L'Arche russe en 2002 en une seule prise. Alors le film King Dave qui prendra l'affiche seulement en 2016, c'est pas pour tout de suite, mais pour ceux qui seraient curieux, un plan séquence, c'est un seul plan, il n'y a aucune coupure. Alors un film de 95 minutes comme ça, c'est beaucoup de travail.
Oui. On vient d'entendre Norah Jones, Say Goodbye. Le Zoo Fest va commencer bientôt. Et ça, le Zoo Fest, qu'est-ce que c'est? C'est un festival d'humour, de théâtre et même de plein d'autres formes de représentation d'art performatif. Dans Le Devoir, c'est l'équipe du Devoir, en fait, qui a écrit ce papier. En fait, ça résume probablement un document de presse et c'est intitulé « Désir, chansons et dérision ». Ça regroupe quoi? Ça regroupe 500 artistes, 180 spectacles, 700 représentations et 15 salles. Pour sa 7e édition, le festival urbain Zoo Fest expose une nouvelle, mais tout dans une nouvelle fois, tout son éclectisme. Programmation qui ferait, comme dans les années précédentes, avec l'humour, la chanson, les rencontres improbables, les talents émergents et le théâtre expérimental. Le menu est chargé. À l'intérieur, Gilbert Rozon, le père fondateur de Juste pour rire, mais également initiateur du Zoo Fest, qui a décidé, dans le cadre du Zoo Fest, de faire ses premiers pas sur scène comme humoriste. Alors, c'est à voir, ça se passe le 24 juillet prochain à l'Agora de l'UQAM. Par ailleurs, les humoristes tout aussi émergents que lui donnent le ton de la cuvée 2015 du Zoo Fest, dans lequel les fidèles pourront renouer ou nouer avec Mehdi Bouseidane, Fred Dubé, Simon Delisle, Étienne Dano ou encore Pascal Cameron. Il y a des nouveautés. Du côté des concepts, le Zoo Fest ouvre son espace de diffusion à Denis Talbot, vieux de la vieille de Musique Plus et figure de la culture geek pour Radio Talbot Live. Il sera question de techno et de jeux vidéo avec ses amis Benoît Gagnon, Yann Richard et Benoît Mercier, pour ne citer qu'eux. Autre innovation, la BD s'improvise. Raconte sur scène les univers dessinés par l'écurie de Front Froid, un fanzine dédié à la relève du 9e art et de la Ligue québécoise d'impro de la BD. Comédien, dessinateur et contrainte au même endroit. Dans une autre salle, Catherine Levac, figure montante de l'humour au Québec, et David Bocage vont tenir l'affiche dans une double tête d'affiche intitulée « Un beau programme ». Pour le volet théâtre, un quatuor de jeunes comédiens formés de Marie-Claude Guérin, Benoît Moffett, Anne Trudel et Guillaume Tellier va exposer l'univers de l'érotisme amateur dans la pièce « Straight », adaptation du film américain « Hump Day ». Les grandes lignes, un couple confortable et un peu conservateur, un ami pas très fréquentable et un pari qui va obliger tout le monde à se mettre à nu. Pour sa part, G Money propose sous la houlette de Guillaume Choquette une comédie urbaine caustique qui prend Laval comme décor pour mieux s'en amuser. Le festival Zoo Fest protéiforme et bilingue prend son envol le 9 juillet prochain pour un mois, principalement dans le quartier des spectacles entre La Chapelle, le Monument national, les Catacombes et le Théâtre Sainte-Catherine. La tombée du rideau, le 1er août.
On se remet maintenant en littérature, cette fois-ci, un peu partout à travers le Québec, parce qu'on va voyager à bord de la librairie ambulante qui s'appelle Le Buvard. Alors, c'est assez particulier comme histoire. Plusieurs petits villages au Québec ne possèdent pas de librairie. Et pour ça, l'auteur et éditeur Michel Vézina a eu l'idée de démarrer une librairie ambulante, une sorte de food truck de livres mis sur pied il y a que seulement quelques semaines. Le concept connaît déjà un très grand succès. Et Raphaël Gendron-Martin du Journal de Montréal s'en est intéressé le 20 juin dernier dans un de ses articles. Alors, depuis qu'il est tout jeune, Michel Vézina caresse le rêve de se promener dans un camion rempli de livres. Je me disais que j'allais vivre sur la route avec mes livres et c'est une belle image que, finalement, il peut réaliser. Il y a 2 ans, lors d'un voyage à Rennes, en Bretagne, il a fait la rencontre d'un libraire qui l'a grandement fait réfléchir. Il lui a dit qu'il avait eu pendant longtemps une librairie à Rennes, mais que ça ne marchait plus et qu'il avait dû la fermer. Afin d'écouler son matériel, il avait pris sa camionnette et s'était promené dans les environs. Résultat, eh bien, les livres se sont vendus comme des petits pains chauds et le libraire a ensuite mis 5 camions à sa disposition pour vendre de nouveaux livres. Alors, fort de ce témoignage-là, Michel Vézina a décidé de lancer ce printemps sa propre librairie ambulante, baptisée Le Buvard. Pourquoi ce nom? Eh bien, parce que la littérature est la drogue la plus puissante que je n'ai jamais connue, c'est ce qu'il répond. C'est celle qui m'a le plus souvent ouvert l'esprit. Il n'y a pas d'effet secondaire à cette drogue-là. Alors, évidemment, c'est assez sympathique comme comme passe-temps, comme comparaison, voilà. Pardon. Dans son petit camion de rue de 100 pieds carrés, on retrouve entre 1500 et 2000 livres, la moitié d'entre eux qui sont usagés et comprennent des classiques de la littérature. L'autre moitié qui est constituée de livres neufs, dont 75% sont des œuvres québécoises. Autrement dit, on fait de la très, très bonne littérature au Québec, c'est ce que dit l'auteur. On a des écrivains, des poètes, des essayistes, des romanciers extraordinaires au Québec. Alors, avec sa petite collection, M. Vizina promènera son camion de livres dans différents événements en province cet été. Son objectif, c'est d'aller dans des villages où la littérature est un peu moins accessible et le succès ne se fait pas attendre. Le week-end passé, on s'est rendu dans un village de 500 habitants. On a vendu plus en dollars que la population du village. Alors, ça vous donne une idée à quel point ça fonctionne bien. Si l'aventure s'avère un succès au bout de l'été, Michel Vézina aimerait prolonger son expérience avec un camion de livres pour l'automne en France. Il est en train de regarder ça, c'est ce qu'il dit. Il y aura même le type de livres, les mêmes choix principalement québécois dans le camion pour les Français qui pourront donc avoir la chance de voir passer. La librairie ambulante Le Buvard sera d'ailleurs au marché de nuit du Mile X à Montréal le 27 juin et au rassemblement de Food Truck au Stade olympique le 3 juillet prochain. Pour voir tout le calendrier d'activités pour l'été, eh bien, vous pouvez aller sur la page Facebook de la librairie ambulante qui s'appelle tout simplement Le Buvard, ou vous pouvez aussi aller dans le Journal de Montréal. On a plusieurs dates pour vous.
Dans les rues de Québec, bientôt, vous pourrez voir Passage insolite, l'édition 2015. Je vais vous décrire l'image que j'ai sous les yeux. Vous êtes dans la rue de Québec, il y a des bâtiments ancestraux qui font un décor de fond de l'image. Et vous avez sur les coins des bâtiments des agglomérations d'objets, de plastique, des bassinettes, tous des objets de plastique colorés, rouge, jaune, vert, quelque chose de vraiment enfantin que je pourrais décrire, là. Et puis, c'est vraiment des agglomérations, là. C'est vraiment très, très gros. Mm-hmm. Vous pourrez voir ça tout l'été et même jusqu'à l'automne. Valérie Gaudreau va nous en parler plus longtemps dans Le Soleil. Deux fois plus d'œuvres pour Passage insolite 2015. C'est comme ça qu'est titré son article, paru le 8 juin. L'art public éphémère revient dans le Vieux-Port et le Petit-Champlain. 12 artistes sèmeront la curiosité et la surprise avec les sculptures et leurs installations extérieures jusqu'au 2 novembre. Il s'agit de deux fois plus d'artistes que l'an dernier pour cette présentation de Passage insolite. Ça veut dire deux fois plus de plaisir, a lancé Vincent Roy, directeur général et artistique d'Ex-Muro, qui pilote l'événement. Les artistes qui participeront à cette deuxième édition ont été annoncés lundi. Les œuvres et les lieux exacts où seront installés seront dévoilés le 2 juillet seulement, le moment où ça va commencer. Des 12 œuvres, 3 étaient présentes l'été dernier, dont le duo Cox-Sasseville, les pigeons géants et les boîtes de conserve Campbell que vous avez peut-être aperçues. Retour aussi pour Laurent Gagnon et son œuvre Mèche noire qui présente des branches recouvertes de pneus sur la façade du stationnement à étage de la rue Saint-Paul. José Luis Tarrés revisitera pour sa part Débordement, une accumulation de centaines d'objets colorés de plastique, ceux dont je vous décrivais tantôt, comme des ballons de plage ou des chaises de parterre. Il va refaire une nouvelle œuvre dans un nouveau lieu, alors c'est à surveiller. Passage insolite présente le travail collectif de 12 artistes. Les œuvres seront des installations, des sculptures, mais aussi des projections vidéo. Se garda bien de trop en dévoiler, Vincent Roy a donné quelques indices sur les œuvres, mentionnant notamment qu'Acapulco fera rencontrer l'art contemporain et l'archéologie. On prend des millions de photos de ces œuvres-là et que ça a un impact pour l'économie de Québec. Ces photos-là circulent vraiment partout outre-mer et ça fait l'envie de bien des villes. Donc, si vous voulez surveiller ça s'appelle Passage insolite. C'est à partir du 2 juillet dans la capitale du Québec. So cold when I'm at home. vient d'entendre More Than Guilt de... Attendez, j'ai ça sur un post-it de Beck. Oui, les post-it qui font partie de nos vies, hein, tellement qu'il y en a qui en font des guerres.
Je ris encore ton lien, c'est... Il y a une guerre de post-it, en effet, qui s'est installée à Québec et je ne pouvais pas ne pas vous en parler quand j'ai lu ça dans le journal Le Soleil. C'est publié le 23 juin par Yann Bussière et c'est vraiment très mignon. En fait, il l'ignorait totalement, mais Étienne Talbot, développeur chez X Media, a relancé il y a quelques semaines une tendance très amusante qui avait vu le jour en 2011 à Paris, quand quelques collègues s'étaient mis à créer des œuvres d'art à l'aide d'autocollants post-it dans les fenêtres de leur bureau de Saint-Roch. Alors, au printemps 2011, Thibault L'Huillier et Émilie Cosette, du développeur de jeux vidéo Ubisoft, avaient décidé de laisser aller leur créativité en reproduisant à l'aide de post-it un envahisseur du célèbre jeu Space Invaders dans la fenêtre de leur bureau de Montreuil. Les employés des entreprises voisines se sont rapidement joints à cette guerre sympathique, donc se relançant, faisant des personnages dans chacune des vitrines avec ces petits carrés de papier de la compagnie 3M. Alors, il y a un des collègues, en fait, de M. Étienne Talbot, à Québec plutôt, qui avait... pardon. Qui s'était établi dans... J'ai pas de voix. Je perds ma voix, Charles.
Est-ce que tu veux de l'eau?
Ça va aller. OK, parfait. Je suis revenu. Alors, il y a un des collègues d'Étienne Talbot à Québec qui avait changé de bureau et il s'était établi dans l'édifice de l'autre côté de la rue et il lui avait demandé de mettre des post-it dans sa fenêtre pour indiquer son bureau, pour qu'il puisse reconnaître où il se situait. Et par la suite, il a décidé de faire dans son bureau à lui un point d'exclamation avec des post-it jaunes qu'il a transformé par la suite en champignons de Super Mario Bros. Et la guerre était lancée. On a vu apparaître des personnages comme Yoda, Spider-Man, les Minions, une Tortue Ninja, le Nyan Cat également, ou même le fameux chien du jeu classique Duck Hunt de la console Nintendo dans les fenêtres de Québec. Les œuvres qui ont ainsi créé un véritable boule de neige, en fait, sur les réseaux sociaux, incitant d'autres entreprises de Québec à suivre le mouvement. L'artiste indique que son champignon a nécessité l'utilisation d'une soixantaine de post-it et lui a pris environ une heure à réaliser. Il promet qu'il n'a pas fait ça sur ses heures de travail. Alors ça, c'est rassurant. Ouais. Les autres œuvres ont nécessité plus de temps, plus d'auto-adhésif évidemment et l'aide de quelques collègues. Et comme les post-it standards sont de 3 pouces par 3 pouces et sont disponibles dans un choix très limité de couleurs, il y en a qui se font découper des morceaux de papier sur mesure pour faire des œuvres plus élaborées avec des couleurs différentes et tout ça. Et semble-t-il qu'ils ont un projet en ce moment qu'ils gardent secret pour l'instant et pour le réaliser, ils ont besoin de 1728 post-it en fait. De 4 pouces par 4 pouces, alors c'est un peu plus gros. Et dans l'industrie du web et des jeux vidéo, c'est tous des gens qui se connaissent, alors ils se lancent des défis jour après jour. Ils sont jaloux quand un autre fait mieux que nous, alors c'est ce que mentionne également Étienne Talbot. Alors peut-être que dans les prochains mois, on verra apparaître dans les fenêtres d'Ubisoft à Montréal des personnages de jeux vidéo. C'est à suivre, mais je trouve ça vraiment très savoureux comme concept. Oui.
Si on tire à sa fin, nous allons vous parler de brèves. Et il y a le Festival de jazz qui commence ce soir et qui va se terminer le 5 juillet, en même temps que le Festivois, tiens. Il y a des spectacles qui ont été annulés. Donc, rayez de vos calendriers deux spectacles en raison de problèmes de visa. Bon, tout simplement, oui.
C'est pas
problème
bon
de logistique. Alors, il s'agit des concerts de Avisha Cohen, qui était prévu les 26, 27, 28 juin, et aussi de King Sonny Adel, qui était prévu au Club Soda le 30 juin. Alors, pour ceux qui, comme Rémi, avaient acheté des billets, vous pourrez vous faire rembourser pour ces deux salles.
Ça va pas bien dans le domaine du spectacle parce qu'il y a eu plusieurs annulations également cette semaine d'annoncer. On sait que Stromae, qui était une tête d'affiche à Oshiaga, ne sera finalement pas là. Il doit se faire opérer pour une maladie. Mais on rassure les gens, il sera au Centre Bell au mois de septembre. Il y a aussi les fans du groupe Nickelback qui sont déçus parce qu'ils ne seront pas au Festival d'été de Québec. Ils ont même annulé 42 de leurs concerts à travers l'Amérique du Nord. Ça va pas bien cet été, je trouve, dans les festivals.
Le Musée national des beaux-arts de Québec annonce qu'une œuvre majeure de David Altmege, The Flux and the Poodle, acquise par la collection Giverny Capital, lui sera présentée pour 10 ans à compter de 2016. Cette annonce survient alors que le Musée d'art contemporain de Montréal inaugure cette fin de semaine une grande rétrospective de l'œuvre de l'artiste. L'exposition au MAC se tient jusqu'au 13 septembre.
Je vous parle d'un nouveau concept d'improvisation également, c'est Danger public, qui est un concept de performance spontanée sur scène, dans lequel deux nouveaux participants à chaque semaine auront à se soumettre à une série d'épreuves plus folles les unes que les autres. Alors qu'ils chantent, qu'ils dansent, qu'ils jouent de la comédie, ce sera improvisé de A à Z. Ce sera présenté dès aujourd'hui au Théâtre du Chenail du Moine de Sorel. Il y a plusieurs artistes dont Laurent Paquin, Mario Jean, Stéphane Fallu, Jeff Boudreau, François-Étienne Paré qui seront là jusqu'au 22 août. Alors c'est à suivre pour ceux qui aiment rire et qui aiment l'improvisation.
Lancée la semaine dernière, l'exposition interactive alaporte.org vise à sensibiliser la population au manque d'accessibilité dans les transports en commun. Convaincus que des histoires pèsent plus que des statistiques, ils soumettent son idée à l'équipe de Portrait de Montréal. Après 7 mois de travail et des dizaines de témoignages, le site alaporte.org dresse le portrait de 68 Montréalais touchés par la problématique, le tout sous la forme d'un plan de métro. Donc, c'est à voir à alaporte.org.
La chanteuse canadienne Shania Twain sera présente un peu partout au pays cet été dans le cadre de sa nouvelle tournée Rock This Country. Elle s'arrêtera d'ailleurs au Centre Bell ce dimanche. Il y a encore quelques billets disponibles, des très bons billets semble-t-il. Elle sera aussi à ceux qui ne pourront pas aller la voir ce dimanche. Elle sera aussi au Centre Vidéotron le 9 octobre prochain et sera aussi une des têtes d'affiche du Festival d'été de Québec. On sait aussi que ce sera sa dernière tournée, semble-t-il. Ce sera bel et bien sa dernière. Elle veut quitter sur une bonne note, autrement dit. Alors, pour ceux qui veulent aller la voir, je pense que c'est le moment ou jamais.
I'm not always strong, and sometimes I'm even wrong, but I win when I choose, and I can't stand to lose, but I can't always be. The rock that you see when the nights get too long and I just.
Alors, c'est sur cette balade de Shania Twain, justement, qu'on se quitte cette semaine. Alors, on se retrouve une autre fois la semaine prochaine pour parler de culture et loisirs. Merci beaucoup, Charles.
Merci, Jean-Philippe.
Et merci beaucoup à Rémi à la mise en onde également. Et je vous invite à écouter l'émission au quotidien dans les prochaines minutes également. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une belle fin de semaine sous le soleil. Allez au Festival de jazz, amusez-vous et profitez du beau temps.